Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya s'exprimait aujourd'hui devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, elle rencontrait à Vilnius Emmanuel Macron qui a clairement pris son parti après l'élection présidentielle contestée dans son pays. Deux jours plus tôt, les responsables politiques libanais se voyaient tensés par le président français pour n'avoir pas su accepter et créer les conditions de l'aide internationale après l'explosion du port qui a ravagé Beyrouth. Au Haut-Karabakh, le chef de l'État fait également preuve de son activisme dans le conflit entre les deux pays. Emmanuel Macron va-t-il trop loin dans l'ingérence ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous sommes avec Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, le CERAP, et directeur de la revue Le Banquet. Et également Pierre Verluise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du site géopolitique diploweb.com et en ligne par téléphone, Christian Lequen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste des questions de diplomatie, auteur du livre « Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français » paru aux éditions presse du CNRS. La question est évidemment posée de manière un petit peu provocante, c'est les journalistes, c'est comme ça, et on va sans doute en rediscuter. Mais dans le cas du Liban notamment, on est quand même, Nicolas Tenzer, sur une séquence un petit peu étonnante depuis cet été.
Mais une séquence à la fois peut-être étonnante de l'extérieur, parce que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron intervient aussi directement dans les affaires directes intérieures du Liban, mais avec de très bonnes raisons, parce qu'à un certain moment, s'il n'y a pas d'arbitre extérieur qui dit maintenant stop, ça suffit, arrêtez. Les révolutions, ou en tout cas les révoltes plus exactement qui ont eu lieu, sont une bonne chose parce que la classe politique libanaise, toutes tendances confondues, n'a pas répondu à ses attentes. Et si vous voulez continuer à recevoir des fonds, pas seulement des fonds français, mais des fonds de l'Union européenne et de la communauté internationale de manière générale, il faut que voilà, etc. Il faut que vous soyez, je dirais, en ordre de bataille et pas que cet argent aille dans une sorte de puissant fonds, voire dans les poches de quelques-uns. Eh bien, je trouve que c'est bien qu'il ait pris le leadership. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est bien lui parce qu'il y a finalement une forme de connivence, d'alliance très forte entre le Liban et la France. C'est bien qu'il soit intervenu.
Alors Pierre Verluise, les Libanais, et je mets ça entre guillemets, parce que surtout au Liban, c'est un petit peu compliqué d'essentialiser une population. Eux, manifestement, ça ne leur pose pas de problème. Ils semblent plutôt satisfaits de l'interventionnisme du chef de l'État français dans cette affaire depuis l'explosion du port.
Ça renvoie au manque de confiance à l'égard de leurs élites nationales. Et trouver ailleurs une référence, c'est un peu triste, mais on jugera le résultat à la capacité qu'aura eu ou pas la France à faire bouger les lignes. Pour l'instant, on ne peut pas faire de procès d'intention. Moi, le mot ingérence me laisse un peu rêveur, parce que pour moi, ça fait penser à l'URSS en Hongrie en 1956, et on n'en est pas tout à fait là, me semble-t-il. C'est de la diplomatie, c'est de l'activisme, ça je veux bien l'admettre. Et attendre de juger sur pièce, parce qu'en fait, la puissance, c'est une capacité à faire. Y aura-t-il cette capacité ou pas ?
Pour l'instant, on nous a annoncé aujourd'hui, c'est Jean-Yves Le Drian qui l'a annoncé, le ministre des Affaires étrangères, le report au mois de novembre de la conférence des donateurs ou des financiers du Liban. Christian Lequen, c'est quand même un petit peu gênant que l'ancienne puissance mandataire, et donc par extension coloniale, tienne un rôle comme celui-là, non ?
Écoutez, je pense que Emmanuel Macron a dit tout haut ce que tout le monde pense. Voilà, la seule question, c'est que lorsque vous êtes président de la République d'un pays, c'est pas comme lorsque vous êtes expert ou universitaire. C'est-à-dire que lorsque vous prononcez un discours, évidemment, tout ça peut être repris, instrumentalisé. Donc toute la question pour le président de la République française, c'est de savoir jusqu'où il peut aller dans son discours. Est-ce que que ça a créé des effets contre-productifs ou pas. Moi, j'ai pas l'impression. En fait, on aurait pu penser que le Hezbollah allait l'exploiter en disant néocolonialisme, etc. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Si vous prenez les déclarations du chef du Hezbollah, il s'est un petit peu étonné, mais en même temps, il a dit je suis prêt à parler. Voilà. Donc, non, au final, je pense pas que ce soit une déclaration très très contre-productive.
Nicolas Tenzer, pour ses dirigeants depuis des décennies, des siècles même, la France a une vocation universelle. Cet activisme diplomatique, c'est ce qui est attendu de la part de la France, en fait.
Alors, je ne sais pas si c'est attendu, mais en tout cas, ça peut jouer un rôle positif. Alors, au-delà de la France, il faut quand même parler de l'Europe. C'est vrai que sur un certain nombre de dossiers, de la communauté internationale, que ce soit en termes de financement, on l'a vu à propos du Liban, ou que ce soit dans la défense des valeurs et des libertés qui sont aussi d'abord des valeurs européennes, que ce soit évidemment en matière de droits de l'homme, que ce soit en matière de défense des libertés, de sauvegarde de la démocratie, je crois qu'Emmanuel Macron a exprimé un certain nombre de choses. Et peut-être d'une certaine manière, sur certains dossiers, je pense notamment à la Russie, à la Syrie, n'a-t-il pas fait assez? Je crois qu'il y a un certain moment où il faut quand même dire stop. Et il faut dire, avec l'Union européenne, eh bien, nous décidons d'agir parce que nous avons en face des menaces extérieures. Et ces menaces extérieures, elles vont souvent de pair avec les atteintes majeures aux droits de l'homme. Et souvent d'ailleurs, ces atteintes aux droits de l'homme sont annonciatrices, pour les grands États en tout cas, d'agressions à l'extérieur. On le voit avec la Russie, on le voit avec la Chine. Notamment.
Pierre Verluise, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le président est dans son rôle en fait.
Oui, comme l'observait avec raison Christian Lequen, il y a une différence entre un universitaire et un politique. Le politique, il est là pour faire. Mmh. Et on n'attend pas la fin du mandat pour faire. On fait aujourd'hui. Je rebondis sur le mot universel que vous avez utilisé. Il y a dans le monde plusieurs universalismes. Français, indiscutablement, américain aussi. Et j'en viens à une idée forte, c'est que depuis l'élection de M. Trump, il y a un certain désarroi, un certain chaos, un certain vide, et la nature a horreur du vide. Donc, il est logique qu'après avoir lentement et difficilement et douloureusement compris qu'on ne pouvait pas compter sur M. Trump, finalement, on fait sans lui. On fait sans lui au Liban, on fait sans lui aussi face à la Biélorussie, dans le dialogue avec la Russie et la Pologne et la Lituanie, à qui on donne un certain nombre de garanties.
Christian Lequen, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a une volonté de remplir une sorte de vide, de prendre le leadership occidental au moment où les États-Unis sont plutôt dans une phase de repli, et ça dure depuis quelques années, et davantage concentré, et ça c'est plus à court terme, sur les problèmes intérieurs et l'élection présidentielle de novembre?
Alors, je distinguerai la Biélorussie du Liban. Si vous voulez, le Liban, traditionnellement, c'est une affaire qui préoccupe beaucoup la France. Pour des raisons historiques absolument évidentes, par le fait que nous avons une diaspora libanaise en France qui est très, très représentée. Nous connaissons tous autour de nous des Libanais. Nous en avons parmi nos amis, notre famille, etc. Si vous voulez, le Liban, c'est comme l'Afrique de l'Ouest. Ça fait partie vraiment des priorités bilatérales. Donc là, je pense que les Américains, autant ils n'ont jamais laissé le Moyen-Orient aux autres de manière générale, le Liban, ils sont quand même prêts à penser que la France a un rôle particulier à jouer. Après, sur la question biélorusse, là, c'est différent. Effectivement, il vaudrait mieux que nous allions de concert avec les États-Unis d'Amérique pour dénoncer le régime de M. Loukachenko, mais ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a quand même, sur cette question, une assez belle unanimité européenne. Donc, je dirais que Emmanuel Macron ne s'est pas distingué de la position coordonnée de l'Union européenne. Pour une fois qu'il y a une position coordonnée, vous voyez, on dit toujours qu'il n'y a pas de politique étrangère de l'Union européenne. Là, sur ce dossier-là, je crois que tout le monde est à peu près d'accord à Bruxelles pour dénoncer le régime et soutenir les manifestations.
Alors, Nicolas Tenzer, pour ce qui est de la Biélorussie, je rebondis là-dessus, on est clairement dans ce que Moscou considère comme sa zone d'influence. Et le président Poutine l'a fait savoir en parlant d'ingérence, là c'est pas mon mot, c'est le sien, à propos de la rencontre d'Emmanuel Macron avec Svetlana Tikhanovskaya. C'est quel message qui est envoyé quand on s'occupe de ce qui se passe dans la zone d'influence d'une puissance comme la Russie?
Mais je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'il y ait des zones d'influence. Et je crois qu'en particulier des zones d'influence de la part de dictatures comme la dictature russe, ça vaut aussi bien sûr pour la dictature chinoise, ça vaut également pour la Turquie, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme inacceptable. Et je crois que s'il y a un message que l'Union européenne doit envoyer, et la France bien sûr comme l'un des pays essentiels de cette Union européenne, c'est que justement quand il y a des peuples qui se révoltent pour demander la liberté, que ce soit en Biélorussie, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Algérie, peu importe où, eh bien la France se tient à ses côtés. Rappelez-vous les discours d'Emmanuel Macron à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2017, septembre 2017, où il disait « je suis du côté des combattants de la liberté ». En 2018, où il réaffirme le caractère universel et non pas occidental des droits de l'homme, eh bien je crois que ça veut dire que les zones d'influence comme celle de la Russie, et on voit très bien quelle est l'intention de M. Poutine, eh bien c'est tout simplement inacceptable. Encore faut-il tenir tête à M. Poutine et ne pas se laisser enfermer dans un prétendu dialogue ou architecture de sécurité et de confiance qui risque un peu de déstabiliser nos partenaires, notamment à l'est de l'Europe, qui craignent quand même directement cette ingérence, pour le coup, ou cette attaque même, dans certains cas, on l'a vu en Ukraine, de la Russie.
Pierre Verluise, est-ce que cette affaire biélorusse montre que Emmanuel Macron a renoncé, comme il l'avait essayé de le faire, notamment lors du dernier G7 à Biarritz, de ramener la Russie dans le concert international?
Il faut lui poser la question. L'ambassadeur de France, Pierre Vimont, s'en occupe, mais un certain nombre d'événements ont, semble-t-il, mis des bâtons dans les roues. Mais ce qui me semble important, c'est à la fois tout en étant parfaitement d'accord avec Nicolas Tanzer, de pointer que en 1991, il y a 15 républiques soviétiques, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine mettent fin le 8 décembre à l'URSS, reste la Russie et 14 républiques. Dans les années 90, la Russie d'Yeltsin parle de l'étranger proche. Et j'attire votre attention sur le fait que l'Union européenne, à l'instigation notamment de la Pologne, de la Lituanie, mais aussi de la Suède, a créé quelque chose qui est devenu le partenariat oriental, qui cisaille en fait l'espace entre la Russie et l'Union européenne. Alors pourquoi pas? Évidemment, ces peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
Mais là aussi, c'est aussi des zones d'influence, une zone d'influence européenne à l'Est.
Tout à fait, mais il ne faut pas être surpris. Moi, ce qui me surprend, c'est que parfois l'Union européenne est surprise que derrière, le boomerang lui revienne dans la figure. C'est le jeu. Si on va chercher la Russie, il ne faut pas s'étonner que ça crée de temps en temps un petit peu des tensions.
Christian Lequen, j'aimerais revenir sur ce que Nicolas Tanzer dénonçait il y a quelques instants, c'est-à-dire l'existence de zones d'influence. Pourtant, cette affaire à l'est de l'Europe ou à l'ouest de la Russie montre quand même qu'il y a un jeu d'influence.
Bien sûr, la conception qu'a M. Poutine de la politique étrangère, c'est une conception géopolitique très classique qui repose non pas sur le dialogue mais sur le rapport de force. Et c'est une différence bien sûr avec l'Union européenne, puisque l'Union européenne a été construite sur l'idée de la négociation, l'idée du dialogue, mais à l'échelle du système international, l'Union européenne, c'est une sorte d'exception en quelque sorte. Donc toute notre politique à l'égard de pays comme l'Ukraine, la Biélorussie, etc., pendant longtemps, ça a été de penser qu'il fallait simplement que nous exportions des normes, une politique normative. Bon, ben, on s'est retrouvé confronté à ce que Pierre Verluise appelle le retour de boomerang, c'est-à-dire la géopolitique très classique. Donc, on est obligé aussi de prendre en compte le rapport de force. Le problème, c'est que l'Union européenne, en tant que telle, ne sait pas tellement gérer le rapport de force. C'est pas dans son ADN, si vous voulez.
Nicolas Tanzer, je vous laisse l'opportunité de répondre à ce qui a été dit. Elles existent, ces zones d'influence.
Alors, encore une fois, elles existent. Mais justement, par rapport à cette géopolitique traditionnelle dont parlait Pierre Verluise, je pense que justement, la force, si force il y a, ou force il y aura un jour de l'Europe, c'est justement de dire, mais justement, cette ancienne géopolitique, elle ne vaut plus. Ce n'est plus notre conception des rapports de force. Il faut établir des rapports de force, mais un rapport de force qui est quand même fondé sur un certain nombre de valeurs, sur des principes, sur des règles communes, qui sont d'ailleurs des règles qui sont acceptées par l'ensemble, théoriquement en tout cas, des nations du monde, dans le cadre de la Charte des Nations Unies et un certain nombre de principes du droit international. Et quand on a un État, prenons l'exemple de la Russie, qui commet des crimes de guerre, c'est rien quand même, en Syrie. Eh bien, on peut dire que cet État, mais il ne respecte pas les règles du jeu, et ça ne peut qu'avoir des conséquences. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et derrière, encore une fois, la question, ce n'est pas la Russie, ou la Chine, ou la Turquie, ou tel pays européen, c'est que ce ne sont pas les nations qui comptent. Ce qui compte, ce sont les régimes et les pratiques. Et là aussi, l'ancienne géopolitique qui ne voit que des États, et de préférence des grands États qui comptent, et puis malheur aux petits, hein, ces petites nations dont parlait Kundera, eh bien ce n'est pas la conception de l'Europe.
Alors justement, Pierre Verluise, on sent bien que Emmanuel Macron essaye de prendre le leadership européen sur ces questions, pour l'instant en coopération avec Angela Merkel, mais l'ère Angela Merkel va se terminer, selon toute vraisemblance, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut prétendre incarner un leadership dans le contexte de l'Union européenne où il y a 27 pays qui sont tous égaux ?
Tous égaux, oui et non, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes droits de vote. Mais certains ont des capacités de blocage. Tous ont des capacités de blocage, sous réserve de s'allier avec d'autres. Christian Lequesne a, dans un ouvrage, voici quelques années, pointé que la France avait mis longtemps à comprendre qu'après l'élargissement de 2004, finalement, les petits pays comptaient, et qu'en fait, il n'y a pas de petits pays, justement. Donc, la France, oui, porte dans son ADN la quête de puissance. Le général Kempf a écrit une fois « Or, la France toujours rêve de la puissance ». Il y a un peu de vrai dans cette idée, et on rêve d'incarner la puissance. Qui d'autre, au sein de l'UE, a ce désir de puissance ? L'Allemagne l'a eu par le passé, entre 33 et 45, on connaît le résultat. Le résultat s'est réinventé, l'Allemagne s'est réinventée autrement par la puissance économique. Aujourd'hui, elle joue un rôle pacifique et un rôle tout à fait positif. Le Royaume-Uni nous a quittés, lui aussi avait dans son ADN, avec son histoire coloniale, avec son arme nucléaire, avec son siège au Conseil de sécurité, un engagement sur la puissance. D'ailleurs, il s'est engagé avec la France en 2011 en Libye, avec les résultats que chacun connaît. Quant à l'Allemagne, elle est beaucoup plus hésitante pour engager des soldats allemands en dehors du territoire allemand. Il faut un accord du Bundestag. Donc c'est très compliqué. Quant aux autres pays, l'Italie, l'Espagne, ils sont dans des situations en deçà. La Pologne a une ambition géopolitique. Il se trouve qu'en ce moment, la Pologne n'est pas tout à fait un état de droit. C'est fâcheux. Donc on pourrait aussi faire observer que M. Macron s'engage beaucoup sur des terrains, vous en avez cité déjà deux, le Liban, la Biélorussie, plus tard le Haut-Karabakh, et qu'il faudrait aussi s'intéresser au sujet au sein de l'Europe. Mais la France est très active sur la question de l'état de droit en Pologne, la France est très active sur la question de l'état de droit en Hongrie, la France a été très active avec l'Allemagne sur le plan de relance. Donc, indiscutablement, il faut être 27 pour faire quelque chose. On en est loin. Et la question, est-ce que la Commission européenne actuelle, qui se veut géopolitique, va, au terme de son mandat, produire des résultats? On ne peut que le souhaiter.
Christian Lequesne, ils en pensent quoi, les partenaires européens de la France, de cet activisme français?
Vous savez, ils sont pas surpris.
Ils ont l'habitude,
oui. Oui, non. Comme l'a très bien dit à l'instant Pierre Verluise, la puissance, ça fait partie de notre ADN. Donc, on est habitué à avoir une certaine ambition en France dans le domaine de la politique extérieure et des relations internationales. Et après tout, ça a une certaine utilité, surtout maintenant que la Grande-Bretagne a quitté le navire. Alors sur le fond, je pense que sur les questions que nous venons d'évoquer, les Allemands ont des positions qui ne sont pas très éloignées des positions françaises. Simplement, c'est pas le même style. C'est tout simplement parce que c'est pas la même histoire. Puis à ça s'ajoute aussi le style du président de la République, qui pense, je crois, qu'un homme politique, c'est là pour secouer le cocotier, quoi. Quitte à ce que les diplomates et les hauts fonctionnaires passent derrière ensuite pour un peu calmer le jeu. Donc voilà. Mais Oui, non, je pense que la France a un rôle important à jouer, mais elle doit le faire sans mépriser les autres. Et ça, ce qui a été dit sur les petits pays, là j'y suis très très sensible. Et là, je vois quand même un changement de doctrine. Le fait que le président de la République se rende en Lituanie, se rende en Estonie, c'est très important, très très important, de donner l'impression à l'ensemble des pays de l'Union européenne que la France ne traite pas simplement qu'avec les grands de ce monde. Mmh. Voilà, je crois que... Mais il y a peut-être un peu d'effort à faire du côté des praticiens de la diplomatie française encore, de ce côté-là.
Alors, je vais me permettre d'introduire une petite nuance qui est dans l'actualité de ces dernières semaines. C'est sur la Méditerranée orientale. Tout le monde, tous les Européens, et notamment l'Allemagne, ne sont pas autant au soutien de la Grèce que la France, Nicolas Tenzer.
Oui, effectivement, là il y a effectivement une différence qui est plus qu'une différence de ton. Il est clair que aussi pour des raisons de politique intérieure, l'Allemagne ne tient pas spécialement à se fâcher avec la Turquie. Et il faut bien reconnaître qu'au-delà des attitudes tout à fait inacceptables de la Turquie en Méditerranée, et évidemment dans le conflit actuel, Haut-Karabakh, je crois qu'on peut dire que malgré tout la Turquie aussi a payé quand même un certain prix, c'est-à-dire qu'on a sous-traité évidemment la politique d'accueil des réfugiés, c'est essentiellement syrien, à la Turquie, et ça l'Allemagne l'a quand même rappelé, quand même plus de 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, et puis il y a un certain moment où on n'a peut-être pas saisi la perche en quelque sorte que la Turquie nous tendait en Syrie, où la Turquie aurait pu être un contrepoids d'une certaine manière à la politique de soutien à Assad, de la part de la Russie, quels que soient évidemment d'autres comportements à l'égard des Kurdes en Turquie, en Syrie, qui ne sont pas tout à fait reluisants de la part d'Ankara. Mais je pense qu'il fallait absolument à un certain moment marquer là aussi qu'il y avait des limites. Je pense qu'Emmanuel Macron l'a fait. Maintenant, il va falloir gérer ça. Je pense que le ton d'Emmanuel Macron lors de la dernière conversation avec Erdogan a un tout petit peu baissé. Je pense que c'est plutôt bien. Bon, là, avec l'hiver du Haut-Karabakh, je pense que c'est encore un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on n'a pas intérêt non plus à avoir la Turquie complètement contre nous. Est-ce qu'Erdogan, on peut le convaincre? Est-ce qu'on peut l'apaiser en quelque sorte? Ça, c'est une autre histoire.
Pierre Verluise, sur l'aspect personnalité d'Emmanuel Macron, il le dit lui-même, il est assez cash, comme on dit de nos jours. Il l'est en politique intérieure. Est-ce qu'il peut se permettre de l'être comme ça en politique étrangère?
C'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire. Moi, ce que j'observe, c'est que la Turquie sort des clous depuis 2010, au moins. Elle est candidate officiellement depuis 2005. Elle est membre de l'OTAN depuis les années 50. Je disais candidate à l'UE, bien évidemment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 2010, elle s'écarte du chemin de l'UE. En 2014, au moment de l'État islamique et des débuts, elle a, semble-t-il, fermé les yeux sur un certain nombre de trafics pétroliers entre le territoire de Daesh et la Turquie, ce qui est quand même fâcheux pour un État de l'OTAN. Au mois de juin dernier, sans prétendre être exhaustif, un navire turc a illuminé un navire de la marine nationale française. Et j'ai appris, Madame Pardy l'a dit, que 8 pays ont soutenu la France à l'OTAN. J'ai cru comprendre qu'il y a 30 pays à l'OTAN. Ça veut dire qu'il y en a 22 qui n'ont pas soutenu la France. Ça fait beaucoup quand même. Donc, il y a là, avec la question de Haut-Karabakh et le jeu que la Turquie joue pour soutenir, dynamiser même peut-être l'Azerbaïdjan contre l'Arménie au sujet du Haut-Karabakh, il y a là un vrai problème. Il y a un moment, il faut mettre les questions sur la table. Et est-ce que ce pays mérite encore les fonds de l'Union européenne qui lui sont versés au titre de sa candidature?
Christian Lequen, j'aimerais rebondir sur la question en fait que Paul Verluise a posée au tout début de cette émission, à savoir sur les résultats. Est-ce que cet activisme diplomatique et international est efficace? Est-ce qu'il y a des résultats?
Écoutez, sur les dossiers en question, il est trop tôt pour répondre à votre question. La politique étrangère, vous savez, c'est pas quelque chose qui se règle comme ça en quelques jours. Hein. C'est un investissement de long terme. Mais en tout cas, sur le Liban, je pense que ça a quand même une certaine répercussion sur le débat politique libanais, c'est-à-dire que les élites représentant les confessions, quelles qu'elles soient d'ailleurs au Liban, qui se sont mises d'accord depuis des années pour que rien ne change dans ce pays, tout simplement parce que ça leur permet, ce statu quo, de se partager convenablement le gâteau, elles savent que la société libanaise en est conscient de ses limites, mais qu'il y a aussi un pays important qui est la France qui a ce discours. Et donc je pense qu'elles ne peuvent pas faire complètement n'importe quoi à l'avenir. Je le souhaite parce que c'est un pays qui est en train de connaître une crise politique et économique vraiment absolument effroyable.
Nicolas Tenzer, effectivement on est dans le temps long sur les questions internationales et de diplomatie, mais je vous pose à vous la question, est-ce que cet activisme-là, il est efficace selon vous ?
Mais disons que je ne sais pas s'il est efficace, mais en tout cas, je ne vois pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il méritait d'être tenté, alors que ce soit évidemment au Liban, que ce soit dans le soutien à la Biélorussie. Le Haut-Karabakh, c'est une histoire un peu différente, hein, parce que comme le groupe de Minsk, ça fait longtemps qu'il est établi, et là, on retrouve un schéma ancien qui existait déjà. Mais en tout cas, je pense qu'il est absolument nécessaire. Il y a quand même un certain nombre de domaines. Je pense, par exemple, ça a commencé avant Emmanuel Macron, à la politique de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Turquie, les deux régimes de sanctions en raison de l'invasion du Donbass et de la Crimée. C'est quelque chose qui est quelque chose de concret. Alors, ça ne résout pas la situation, mais ça permet d'avancer. Deuxième question, et là je pense que c'est quand même la question de l'efficacité, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui faire sans les États-Unis ? Et là, malheureusement, la réponse est non. Et je pense que la question de l'autonomie stratégique, qui est une des grandes thématiques d'Emmanuel Macron, bien là, c'est sur le temps long, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'Union européenne seule intervenir, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Biélorussie, que ce soit en Syrie, en admettant qu'il faille intervenir.
Il n'y a pas d'Europe puissance, c'est ce que vous dites.
Il n'y a pas aujourd'hui d'Europe puissance, mais il faut en tout cas s'y engager. Et encore une fois, la diplomatie, ça prend du temps, et on verra dans 20 ans.
Pierre Verluise, c'était votre question, donc je vous demande votre réponse, puisque vous avez à avoir quand même un ordre d'idée à cette question. Est-ce que cet activisme est efficace ? Est-ce qu'il y a des résultats ?
Je m'en sortirai par une pirouette en laissant le temps du temps long, mais je répondrai à la question de la puissance et de l'Europe puissance. C'est quoi concrètement et comment on peut l'évaluer et comment est-ce que dans 2 ans, dans 5 ans, on pourra voir si ça a donné quelque chose? Il faut d'abord se mettre d'accord sur qui sont nos alliés, quelles sont les menaces, qui sont nos ennemis. Est-ce que nous sommes d'accord à 27 aujourd'hui pour répondre à ces 3 questions ? Réponse sur la Biélorussie, si vous êtes polonais ou français, vous ne le vivez pas de la même manière. Réponse, la relation aux États-Unis, si vous êtes polonais ou français, vous ne le vivez pas de la même manière. Donc, il y a bien une difficulté pour se mettre d'accord pour construire quelque chose. Néanmoins, c'est nécessaire.
Christian Lequen, je sais que vous êtes tous des spécialistes des relations internationales, mais cet activisme, est-ce que c'est aussi destiné à faire passer un message politique intérieur, celui d'un président qui assume un rôle important pour la France dans le monde ? Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi ?
Je pense que les Français aiment bien ça, oui. Je pense que les Français sont contents d'avoir un président de la République qui est présent, actif et visible sur la scène internationale. Sauf que ça n'est pas cela qui permet de se faire réélire. Je crois que à partir du moment où on entre dans une campagne électorale pour une présidentielle, là ce sont d'autres questions très liées à la politique intérieure qui reviennent sur le devant. Et donc on aime bien avoir un président de la République actif, et après tout la Constitution le permet, hein, puisqu'elle donne des compétences à ce président de la République en matière de sécurité et de politique étrangère. Mais quand on arrive vraiment à l'échéance présidentielle, là ce sont les questions économiques, les questions sociales, etc., qui reviennent sur le devant, et c'est ça qui fait une élection présidentielle en France.
Nicolas Tenzer, sur ce sujet du message de politique intérieure, il y a quelque chose qui est de cet ordre ?
Il y a quelque chose qui est de cet ordre, qui effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christian Lequen, évidemment ne va pas changer le résultat des élections, ça c'est évident. En revanche, je pense pense qu'il faut faire attention aussi à une cohérence. Et je pense que la cohérence, elle est absolument indispensable par rapport à l'opinion publique, à la fois quand il faut alerter des dangers, et je pense que là-dessus, nous devrions alerter beaucoup plus sur les dangers, voire sur les ennemis, pour reprendre ce que disait Pierre Berluise. Hein. On a des ennemis, nous avons des ennemis. Moi, je pense que le régime de Poutine est un ennemi, que la Chine de Xi est un ennemi, et probablement la Turquie d'Erdogan, d'une certaine manière également. Mais il faut le dire et il faut l'expliquer.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer, merci Pierre Verluise, merci Christian Lequen, merci à tous les trois messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Victor Hull. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, dans moins d'une minute. L'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Et bonjour chez vous.
Les voisins du...